La settima mura, c'era Salvini, il petit côté qui était là-dedans. Alors, un beau jour, nous voilà donc arrivés. Alors, toujours la même chanson, c'était encore une fois mon tour de ma section de monter en ligne. Alors, on arrive là, le lieutenant, c'est le lieutenant qui est venu pour m'indiquer la position où on veut aller. Alors, en pleine nuit, naturellement. Alors, on arrive là-haut, il me dit, voilà, vous allez installer vos pièces ici, voilà, au brive, là-bas, on voyait des clartés, des éclatements, ça bombardait déjà sur au brive. Alors, vous allez installer vos pièces ici, et ma foi, quand on aura des ordres, vous savez ce qui va se passer, hein, c'est pour attaquer au brive. Bon, puis je me reparti. Je vais le planter là, sur ce moment-là, avec toute ma section. Et puis les pièces qu'on avait amenées avec nous. Enfin, d'un coup, je me retourne, ah oui, mais voilà où brive là-bas. Comment est-ce que je vais installer mes pièces, moi? Il va falloir creuser des trous, faire les positions, tout devant l'infanterie. Ah, je dis, ça va pas, mais... Oh, je vais attendre le jour, de manière à voir réellement les positions, puisque le lieutenant est barré, lui, il s'était déjà tiré les pattes, hein. Alors, on va voir, j'attends le jour. Dès que le jour a été un petit peu éclairci, je me file sur le parapet, comme ça, sur le terrain. Ouh, qu'est-ce que je vois? Les réseaux de fils de fer allemands, qui nous encerclait, ça faisait un grand arc de cercle tout autour de nous. Ouh, j'ai mon Dieu. Et la première pelle de terre qu'on va remuer là-dedans, l'artillerie allemande s'arrête pour nous. Oh, j'ai dit non, j'installe pas mes pièces ici, là-dessus, surtout sur une petite hauteur comme ça, on est bien placé pour être repéré. Enfin, j'envoie un gars, rechercher le lieutenant. Alors voilà le lieutenant qui revient naturellement en maugréant. Alors il s'aperçoit tout de suite qu'on n'avait rien fait. Il commence à gueuler naturellement. Ah, j'ai dit non. Vous savez où nous sommes? Ben, nous sommes encerclés par les Boches. Et on ne va pas pouvoir remuer un pic de terre sans se faire massacrer. Non, je vous donne l'ordre de faire la position, tu dis, et c'est là qu'il faut être, et là que l'état-major a décidé. Ah, j'ai dit non, je dis, oui, vous refusez, je dis, oui, je refuse. J'ai dit d'abord, je dis, j'enlève ma veste, prenez le commandement, je dis, moi je ferai comme tout le monde. Mais je ne vais tout de même pas avoir sur la conscience de me faire massacrer et de massacrer tous mes hommes avec. Tu vois sa gueule? Non. Alors, ma foi, on installe tout de même les pièces. Mais alors, je me dis, attention à toi, mon petit. On va remuer la terre, c'est réglé, on est repéré tout de suite. Je dis, allez, au gars, je dis, allez, hop, allez, aux fantassins, allez là-dedans, vous en trouverez, vous m'emmenez des sacs à terre. Et puis, on va faire les positions, on va faire les trous pour les pièces, on les raccordera par des boyaux, mais toute la terre, vous allez me la porter à 50 mètres derrière. Derrière, j'ai dit, hein, pas devant. J'avais mon idée, moi. Bon, en effet, on fait les positions, puis on va vider chacun avec des sacs à terre pleins, des sacs à terre gros comme ça, quoi, des sacs à terre de régiment, quoi. Ils allaient vider les sacs et puis ils revenaient, puis ma foi, nous voilà passés, on travaille deux jours comme ça. Enfin voilà les pièces, tout de même, installées. Mais alors il y avait une belle butte de terre fraîchement ruée, 50 mètres derrière nous. Alors enfin, j'ai été surpris moi, de ne pas recevoir un coup de fusil ni quoi que ce soit. On a travaillé comme des anges. Une fois les positions installées, on me dit toujours, le capitaine qui avait passé aussi, alors, il dit ça, c'est... Il dit oui, mais alors je lui explique que... Ah, qu'il dit, bien sûr, le lieutenant, il a facile de dire, qu'il dit, ah, c'est encore une de ces idées folles. Qu'il dit. Alors je lui explique, il dit, mais je dis, vous allez voir, maintenant on n'a pas été tiré, ils n'ont pas tiré sur nous, mais je suis persuadé que la première torpille qu'on va envoyer, ça se déclenche. On va être pris directement et puis tout secteur. Ah, tu me dis qu'est-ce que vous voulez, c'est la guerre. Ah oui, je dis c'est bien, mais en attendant, il y a quelque chose qui est en suspens, c'est nos vies à tous. Bon, ma foi, nous voilà tout de même campés là. Les fantassins, ils s'en prestent bien, ils ronchent après nous, ouais, les crampouillots, c'est eux qui vont nous foutre le secteur en l'air, tu dis. On est un peu tranquille. Ma foi, un beau jour, voilà l'ordre qui s'amène de commencer le tir à 10 heures. Bon, ma foi, exécution. Faites un démon, la première torpille était en l'air, qu'il y avait déjà l'artillerie qui tirait sur nous. Mais les Boches avaient été blousés. Ils voyaient la terre, la position de terre, qui était à 50 mètres derrière nous. Ils ont dit, ils sont là derrière. Ils sont derrière la terre, là, derrière. Toute l'artillerie, tout tirait sur la terre qu'on avait déversée là-haut. Donc, tu es 50 mètres derrière nous. Et je t'en donne des deux côtés, naturellement, nous. On y en mettait un coup aussi, puis eux. La femme idée s'amène. Voilà les porteurs de soupe qui s'amènent. Il dit, allez, hop, cessez le feu. Allez, tout le monde a la soupe. On cesse le feu, sitôt qu'on a eu cessé le feu, l'artillerie allemande s'est arrêtée aussi. Ils sont dit, on les a vus. Hein. Ils ne tirent plus, certainement ils sont en l'air. Alors ma foi, on mange la soupe, et toute la soupe avalée, mais allez hop, les dégage. Allez hop, feu. Voilà qu'on tire. Alors les Boches ont recommencé aussi. Ouais. Alors ils se sont dit, oh, ça va pas. Là les crapauds qui nous tirent dessus, la même chose qu'avant. On les a pas eus. C'est pas là qu'ils sont. Alors ils ont commencé à faire un tir fauché, eux. Ils ont tiré tout partout. Tout partout, il y avait des pièces qui tiraient devant, qui tiraient sur les côtés, en long. Ah, j'ai dit, maintenant, j'ai dit, voilà que ça commence. Alors, on continue à tirer. Tout d'un coup, voilà un sacré 88 qui s'amène. J'avais un gars qui était dans un espèce d'abri où étaient les munitions, les torpilles étaient stockées là, et puis ma foi, on les sortait au fur et à mesure qu'il les fallait pour tirer. Alors ma foi, moi j'avais les quatre pièces qui étaient alignées. Chaque fois qu'un pointeur levait le bras prêt, hein, moi je donnais un coup de clé, on les faisait partir à la magnéto. Donnait un coup de clé dessus, puis il m'a fallu. Alors j'étais debout, puis j'étais à la première perche, j'allais à la deuxième. Ça, j'étais baissé comme ça, le gars était dans l'abri, justement, je voulais passer devant lui, comme ça. Voilà un bignou comme ça qui s'amène, il éclate sur le parapet, derrière moi. Top. Me blaquenait. Alors j'ai encore entendu, en étant pris, comme ça. T'es paralysé directement, hein. Ça va vite. J'ai encore entendu le gars qui dit, il est tué, qui voyait, c'était son premier feu. C'était un gars de la classe 17, un gars de ma classe, qui était seulement arrivé en renfort. Alors, naturellement, ils ont cessé un peu le feu, puis ils m'ont ramassé, foutu sur un brancard, et puis hop, évacué. Alors, depuis là, j'ai plus rien vu, ni quoi que ce soit. Mais alors, j'ai appris après, par des copains qui nous ont écrit, que les gars de ma section, ils étaient pris sous le feu comme ça. Ils étaient descendus dans le gourbi qu'on avait fait, et ils étaient tous planqués à l'entrée du gourbi. Il y a eu un obus qui s'est amené en plein dans l'entrée du Gourville, il les a tous nettoyés. Il n'y en a eu qu'un seul qui n'a pas été tué tout de suite, il avait des éclats d'obus plein le corps. Alors naturellement, quand ils l'ont emmené au poste de secours, le gars était mort aussi. Ça fait que dans toute l'histoire, il n'y a eu que moi qui est sorti de là-dedans, qui m'a fait réchapper. Autrement, tous les autres ont été nettoyés. Voilà le résultat de la bêtise d'un lieutenant. Voilà. Et comme ça s'est passé. Alors de là, moi, il m'avait envoyé au poste depuis là. Il m'avait fait descendre à Saint-Nizier-le-Grand. Ils m'ont emmené à l'hôpital à Suippes. Voilà, j'étais à l'hôpital à Suippes, là. Et puis alors, quand j'ai été, ils ont essayé de m'opérer, ils m'ont soigné, ils m'ont tiré dehors des pattes, quoi, mais ils n'ont pas pu m'opérer. Alors, depuis Suippes, on était dans un camp entre Suippes et Somme-Suippes, au camp militaire, là. Dans le camp militaire, il y avait un hôpital provisoire qui était là. Alors c'était là, dans cet hôpital, dans un grand baraque Bandrian qui était là-dedans. Alors c'était peut-être, je sais pas moi, quelque chose comme 80 blessés là-dedans, de toutes les façons, quoi. Des brûlés par les gaz, des scatés, de tout, quoi. Alors, à bonjour, il y avait des gars qui n'étaient pas blessés gravement non plus, moins gravement que moi. Alors, ils avaient trouvé le moyen d'aller au village chercher des bricoles puis boire un coup, quoi. Et puis rentrer au baraquement pour l'hiver en attendant des trains sanitaires. Alors, je me dis, mais bon sang, moi aussi j'irais bien. Est-ce que je pourrais me lever? Et j'étais un petit peu, j'avais des lunettes, fichu des grosses lunettes dedans, enfin. Alors on va voir le major le dimanche. Le major qui s'amène. Alors, comme toujours, il faisait sa visite des fois 3-4 fois par jour. On voit les blessés, c'est la permanence. Quoi. Alors, il vient vers moi. Alors, petit, il me dit, ça va? Oh, je dis, oui, ça va, quand même, monsieur le major. Je dis, mais, qu'est-ce qu'il y a, qui me dit? Il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dis, écoutez, monsieur le major, je voudrais bien vous demander quelque chose. Ah, qui me dit, allez, qui me dit, vas-y, qui me... Ben, je dis, voilà, vous voyez, je peux marcher, je dis. Et c'est dimanche aujourd'hui, je voudrais bien pouvoir aller à la messe. Ah, oh, qui me dit, mais oui, qui me dit, pour aller à la messe, qui me dit, vous entendez là-dedans les gars, qui me dit, ceux qui peuvent marcher, qui veulent aller à la messe, vous pouvez y aller, hein. Alors, il me dit, moi je me refrains, quoi. Et puis, ma foi, me voilà parti à la messe. J'avais autant envie d'aller à la messe que d'aller me noyer, sans doute. Hein. C'était plutôt pour aller au village. Acheter quelques bricoles, quoi, et puis profiter pour boire un verre de vin aussi. Hein. Alors, on va repartir à la messe. En cours de route, d'un coup, j'entends marcher derrière moi, je retourne. Qu'est-ce que je vois? C'était le major avec l'infirmière chef. Ils allaient à la messe. Probablement que c'était un curé ou un catholique dans l'âme, enfin. Je me suis dit tout de suite, dit, mon petit, t'es fait. Ils t'ont vu l'un et l'autre. Il faut aller à la messe. Faut que je continue. Et puis je monte le parvis de l'église, et quelques marches Et ma foi, j'ouvre la porte, je laisse passer le major avec l'infirmière pour qu'il aille à la messe. Je rentre derrière eux, ils vont s'asseoir dans un rang. Je vois qu'il y avait de la place devant. Je fais ni une ni deux, je vais m'installer comme il faut devant eux. Et puis me voilà à la messe. Et dit comme ça, il ne pourra pas dire que je n'ai pas été à la messe. Et je suis dit, pendant ce temps-là, en fait, prière, moi, je revenais ce que j'allais faire. Alors, la messe terminée, ma foi, la même chose. Je sors, j'ouvre encore une fois la porte de l'église, ma foi, ils sortent. Ils vont me voir, j'attends un petit moment sur le parvis. J'attends qu'ils soient partis un petit peu. Et puis, moi, me voilà parti au village. Quand j'ai rentré au village, j'ai tourné un petit peu là-dedans, comme ça, j'ai vu une paire de vin. Une paire de verres de vin au village, j'ai acheté mes petites bricoles, et puis je suis revenu à l'hôpital, ma foi, au baraquement. Oh, ma foi, ça s'est passé très bien. Et le surlendemain, tout d'un coup, voilà l'infirmière qui s'amène dans mon petit, qui dit, faut t'habiller, qui dit, hein, prépare-toi, qui dit, ramasse tes affaires, qui dit, on t'évacue. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On m'évacue. On attendait un train sanitaire, mais dans 15 jours au moins. On a dit, il ne devait pas venir maintenant, tout de suite. Enfin, moi, j'exécute, hein. Puis me sortir de là aussi. Hein. Alors, voilà les infirmiers qui s'amènent, avec un brancard. Bon, c'est bon, j'irai bien. Non, allez, tu le brancard. Enfin, on me fout sur le brancard, on me prend, on me sort du bâtiment. Il y avait une voiture sanitaire qui était là, on ouvre les portes et puis hop, enfilé dans le bras. Et tout seul. On me dit, bon, qu'est-ce que c'est qu'on m'emmène tout seul comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est qui peut se passer? Alors, ma part, le major, allez, hop, dépêchez-vous, hein, tu dis. Allez, vous n'avez que le temps, juste le temps. Voilà l'ambulance qui fout le camp. Alors, tu vois, une depuis là, on prend la route, et puis hop, nous voilà à Châlons. Arrivé à Châlons, directement à l'hôpital de Châlons, qui était déjà un grand hôpital, les majors de l'hôpital qui étaient sur le parvis de l'hôpital, qui attendait, tout de suite tout le monde se précipite, on vient me prendre le pouls, on vient me regarder, me demander comment ça allait, etc. Dépêchez-vous, allez, hop, vite. Ma foi, on me ramène à la gare. À la gare, il y avait un train sanitaire qui était là, qui était déjà bourré de blessés. On passe par les carreaux d'un wagon. On me raccroche en l'air dans le wagon, on fait un tour, voilà, le train est parti tout de suite. J'ai pas attendu. Hein. Alors on a trimballé. Par où j'ai passé, j'en sais rien. Je ne sais pas où j'ai. Enfin, le surlendemain, encore, on était deux jours en route comme ça. Alors, de temps en temps, le train arrêtait dans une ville. Et on descendait des blessés. Si bien qu'on arrive à Limoges. Donc là, tu te rends compte si on m'avait trimballé assez. Hein. À Limoges, fini. Allez hop, pour vider tout le train. Les brancardiers s'y mettent. Tout le monde descend des blessés. On vide le train, puis voilà le train parti. Il a rentré pour se garer, sans doute, je ne sais pas. Alors, au même moment, il y avait une quantité d'ambulances qui stationnaient devant la gare de Limoges. Et puis les brancardiers, alors ils nous avaient foutu des grandes étiquettes sur le ventre à chacun, comme ça, avec tous les renseignements, probablement dessus, je ne sais pas. Alors, enfin, mais, regardez, ah, le blanc, c'est celui-là, allez, hop, rattrapé, hop, dans une ambulance, il en coûtait quatre par ambulance, et puis hop, parti. Alors toute l'après-midi, comme ça, la manœuvre, comme ça, déblayer les blessés dans les hôpitaux de Limoges. Il y en a mis, il y en avait. Alors ma foi, la nuit arrive, mais c'est quoi, là, j'étais toujours là, moi, sur mon brancard, à ne pas savoir quoi faire, à regarder le mouvement à droite à gauche. La nuit arrive, la nuit commençait à tomber, je me trouve tout seul sur le quai comme ça. Tout le monde était parti, je voyais plus l'ambulance ni quoi que ce soit, et moi j'étais tout seul sur mon brancard, sur le quai de la gare de Limoges. Je commençais à la voir sec, moi. Elle me dit, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, comme ça, on va pas me laisser là. Pas toute la nuit, dit, non, c'est en blague. Enfin, tout d'un coup, j'aperçois une ambulance qui s'amène. Et les deux gars, alors ils regardent, ils voyaient plus l'ambulance, plus de brancard. Alors tout d'un coup, il y en a un qui m'aperçoit tout de même sur le quai. Là, qui vient, il regarde. Mais le blanc, tu dis, le blanc, c'est... Alors immédiatement, hein, tu penses, ça faisait vite. Hein. On m'attrape, hop, enfilé dans l'ambulance, tout seul. Ici, il n'y avait plus que moi sur le quai. Même là, enfilé tout de même dans l'ambulance. Puis voilà l'ambulance qui démarre. Où j'ai passé dans l'Imo, j'en sais rien, naturellement, enfermé dans l'ambulance. Et puis alors, tout d'un coup, on arrive, alors, je m'assois un petit peu sur le brancard pour en garder par là. Oh, je vois, l'ambulance est arrivée, on ouvre les grandes grilles, comme ça. L'ambulance rentre, tout ça, tourne dans la cour, le lampe, on vient s'arrêter devant le parvis. Voilà les sœurs qui s'amènent tout de suite. Puis alors, on m'a regardé, mais je vois, tu sais, pour reprendre encore la température, le pouf, tout ça, et puis regarder si mes pansements étaient bien en place, tout ça. Et puis, ma femme, on reprend sur un brancard, puis, me voilà rentré dans le bâtiment. Bâtiment, couloir sur couloir, une porte s'ouvre, une sœur devant. On rentre dans une salle qui était déjà pleine de blessés aussi. Mais, alors on arrive, comme tu dirais là, alors tout ça, c'était des blessés qu'il y avait plein là-dedans, tous l'un contre l'autre, quoi. Et puis ma femme avait une porte, elle ouvre la porte. Il y avait une petite chambre, comme, grosse comme la cuisine, là. Et puis alors, on bourdit des beaux meubles, tout arrangé. On colle là-dedans, naturellement déshabillé par les sœurs, nettoyer, hein, laver un petit peu, et puis hop, dans les draps là-dedans. Et j'ai remarqué, il y avait un sacré petit tannamite qui était en tenue militaire, qui était dans la chambre et puis qui ne bougeait pas. Hein. Il laissait faire, il faisait que regard. Il dit, qu'est-ce que c'est du chinois là qui est là-dedans? Enfin, me voilà dedans. Bon, alors, on ferme les portes tranquillement, puisque là, on avait allumé l'électricité, alors, on fermait l'électricité, puis ma femme. Puis moi, me voilà dans un beau lit comme ça, puis bien arrangé, me voilà bien parti, à roupiller comme il faut. Hein. Alors, enfin, j'ai passé une bonne nuit. Alors le matin, j'étais réveillé tout d'un coup. Je me disais, quelle heure qu'il peut être. Ça a l'air de faire jour dehors, comme ça par les persiennes. Alors, je regardais comme ça. Tout d'un coup, je vois ma sacrée porte qui s'ouvrait tout doucement. Là. Puis je vois un œil qui regardait. Alors je vise le gars, mais je dis, qu'est-ce qu'il dit, c'est ça? Quand la porte a ouvert un petit peu, j'aperçois que c'était sacré Annamite qui était là. Alors quand il a vu que j'avais les yeux ouverts, que je ne dormais pas, il ouvre un peu plus pour passer la tête. « Bonjour, sergent !» J'ai dit « Ah, ben bonjour !»« Ça va, sergent ?» Elle dit « Ça va, je dis. »« Bon, on va venir !» Il a été prévenir ma soeur, naturellement. Alors, ma soeur s'est emmenée tout de suite avec le sacristain Guignolin. Il avait été désigné spécialement pour moi. Et il passait sa journée avec moi dans la chambre, si je voulais quelque chose, si je voulais boire ou quelque chose, ou il était là pour me servir. Alors, naturellement, j'ai été soigné là, au poil. Et puis alors, j'avais ça de bien, c'est que à Limoges, dans tout, comme ça se faisait certainement dans tous les hôpitaux militaires, le jeudi, il y avait les dames de Limoges qui venaient visiter les blessés, alors qui apportaient des friandises, qui apportaient des petits cadeaux que vous avez aux blessés. Alors j'ai été soigné comme ça pendant tout le temps qu'il avait été nécessaire, puis le major qui était venu. Mais alors moi j'ai eu le temps à ce moment-là de me poser la question, pourquoi on m'a évacué tout seul? Pourquoi on est venu me coller, parce qu'alors à la sœur, avec la sœur en bavardant comme ça, j'ai dit, mais ma sœur, j'ai dit, est-ce que je peux vous poser une question? Mais oui, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, je voudrais bien savoir où je suis. Il dit, je sais bien que je suis dans un hôpital, je m'en doute, mais je voudrais bien savoir où. Alors ça a été elle qui m'a dit, mais qu'elle m'a dit, t'es à l'hôpital de l'évêché à Limoges. C'était tout l'évêché qui avait été transformé en hôpital, c'est ça que c'était tous les sœurs qui étaient là-dedans. Alors, j'ai dit, mais alors je me posais la question, pourquoi, quand t'as emmené ici, et à l'hôpital de Limoges, et tout seul. Ah. Alors j'en ai arrivé à déduire une chose. T'as demandé au major pour aller à la messe. C'était certainement un curé ou quelque chose. Et ça a été ça qui l'a fait des pieds et des mains. Et puis qui m'a foutu une distinction quelconque après ma plaque, et puis qui m'a fait évacuer tout de suite, tout seul, et puis à Limoges, et pas dans un hôpital ordinaire, à l'évêché. Parce que c'est un coin certainement que le major connaissait bien. Hein? Voilà pourquoi, c'est la raison plausible, voilà pourquoi j'ai été envoyé à l'hôpital de Limoges, à l'évêché, parce que j'avais demandé pour aller à la messe le dimanche. Voilà. Ça a été là. J'ai achevé de me requinquer là-dedans, comme ça, jusque quand on a pu enlever les pansements, tout. Et puis qu'ils m'ont mis des lunettes, des petites lunettes jaunes, des belles petites lunettes jaunes, tout ça. Parce que je ne pouvais pas résister à la lumière. Alors c'était pour ça que j'étais là. Alors, quand ça a été terminé, alors un beau jour, le major m'a dit, mon petit, tu dis, attends, il faut faire de la place. Alors on va t'envoyer en convalescence. Alors depuis Limoges, actuellement, ils m'ont renvoyé chez moi en convalescence. Et pendant ce temps-là, un beau jour, il y a mon sacré anamite, il était toujours le porte-parole, tout ça, parce qu'il parlait encore bien français seulement, et avec son accent oriental. Quoi. Alors, il vient, sergent, on vous demande à la porte de l'hôpital. On va voir, on me demande qui c'est qui vient. Alors, je suis descendu quand jusqu'à la porte de l'hôpital. Qu'est-ce que je vois en arrivant à la porte? Amar, mon copain, celui à qui j'ai sauvé la vie dans la Somme, avec deux béquilles. Il habitait Caen. Et depuis quand il s'était payé la fantaisie de venir avec ses deux béquilles, de venir me voir à l'hôpital de Limoges. Il avait réussi à savoir où j'étais. Il était venu me dire, on l'a bavardé un quart d'heure. Et puis il est reparti chez lui, comme ça. Ça a été lui que j'ai retrouvé le premier, comme ça. Donc, parce qu'il savait, que si ça avait été que de moi, que si j'avais pas été là, quand il a été blessé, on aurait pu parler de lui il y avait longtemps. Oh, alors là, c'est une autre histoire, hein, une autre chanson. On était du côté de Compiègne, et puis ma foi, on est foutu de camp, on est monté sur Amiens, d'en haut. Ouais, à Montdidier, où on a passé, on est passé par Marseille, parce qu'il y a Marseille, d'en haut. Même j'étais, on était dans le train, on a été emmené là-bas, en train, alors on avait embarqué, avec toutes nos pièces, tout le bazar. Et puis on est monté par le train. Alors tout d'un coup, en pleine nuit, on a été arrêté bien une demi-heure au moins. Alors, j'ai descendu du train, moi je dis, regarde qu'est-ce que c'est de la petite gare là. C'est une petite ville, là, c'est un petit village même. Alors, je vais jusqu'à la gare qui était pas loin de mon compartiment. Marseille. Si bien, je ne savais pas, hein, je savais pas qu'il y avait de Marseille. Alors on me dit, merde, Marseille, je dis. On n'est pas fou quand même. Qu'est-ce qu'on va foutre à Marseille? Je lui dis tout de même, je ne sais pas Marseille, ça. Je connais encore suffisamment Marseille. Dis, alors c'est là que j'ai appris que c'était Marseille dans le Nord. Alors on a parti sur Amiens. Alors Amiens, on a débarqué, et puis nous voilà reprendre la route, et puis nous voilà monter à Capi. Capi qui était une petite bourgade aussi, enfin déjà un petit peu, peut-être pas si gros que Pompé, mais enfin. Alors là, on fait un cantonnement, il y avait encore un gros château qui était à la sortie du village. Alors on a cantonné là. Alors naturellement, on a été deux jours là. Deux jours à Basse-Terre, on avait fait des baraquements. Alors, parce qu'ils ne pouvaient pas loger tout le monde. Il y avait que les officiers qui étaient logés dans le château. Alors nous, on était dans des grands baraquements de rien. On avait monté, qui était arrivé par le train aussi sans doute. Alors on s'est installé là. Alors, bonjour, allez hop, 5e batterie, en route. Donc, en route, nous voilà partis. Depuis Capi, on monte à Herbécourt, d'abord. Herbécourt, qui était déjà passablement démoli. Flocourt, qui était encore plus. Alors là, ça, c'est. Les routes s'en vont de tous les côtés. Il y en a dans tous les coins. On prend la route à gauche, d'après ma carte. On prend la route à gauche. Le chemin creux, c'était la route qui allait à Biache. Direction Péronne. On ouvre la partie. Mais va te faire voir. Dans cette sacrée route-là, on a commencé d'attraper de la boue jusqu'au ventre, sur la route. Les roues de la boue, plus haut que les moyeux, les chevaux, la moitié du ventre dans la boue. On a déjà eu un mal de chien pour passer là-dedans. Et quand on a eu réussi à passer là, on monte un petit peu plus loin, peut-être un kilomètre plus loin. Alors là, plus moyen de monter avec les chevaux. Allez, tout le monde à dos d'homme. Puis dans la tranchée qui était prête, qui prenait, là, qui montait, direct d'après la carte, qui montait à la maisonnette. Oh, du mon vieux. La maisonnette, ça avait déjà passé dans les communiqués, mais ça ne doit pas être rigolo là-dedans. Alors on ouvre là-dedans, mais c'est encore la même chose. Une depuis le bout, jusque quand on a trouvé les fantassins, dans la boue, la boue au minimum jusqu'au-dessus du genou. Quand tu ne te descendais pas dans un trou, tu n'en avais pas jusqu'au milieu du ventre. Alors l'ouvre a passé la dos, et alors naturellement, quand, dans les positions même, l'infanterie, tout ça, ben, tous les jours c'était à la pelle, il fallait nettoyer les tranchées, et comme il n'avait plus beaucoup, c'était l'hiver 16-17, hein, alors c'était de la boue en voiture, voilà tout partout. Le secteur le plus sale que j'ai jamais vu. Alors on s'est installé là en haut, et on a eu la bagarre avec les frisés, tout ça, si bien qu'on les avait délogés de leur première ligne, qui était déjà dans le fond aussi, parce qu'ils étaient dans la merde aussi pour nous, pour venir à nous, mais nous on les avait repoussés, et on avait réussi à remonter sur une pelle. Puis un dénivellement plus haut, alors on avait déjà moins de boue là en haut. Mais on était encore de la boue jusqu'au mollet. Hein. Alors, ou alors, à tout moment, on passait les corvettes pelle, puis faire la bagarre en même temps. Alors nous voulons donc installer là en haut, on installe nos pièces, on commence le bombardement, on bagarre. Mais là, il arrive à un moment où plus de ravitaillement. 5 jours comme ça, pas de ravitaillement. On ne pouvait pas dire qu'on aurait bu un verre d'eau, c'était pas ça qui manquait, mais c'était de la boue, c'était pas de l'eau pour dire. Alors on n'a pas encore chassé avec les fantassins, on n'avait pas un bout de pain de raviot, on n'avait pas si. On en a encore réussi à avoir des petits bouts comme ça. Mais c'était pas ça qui garnissait le sifflet. Hein. Alors, voyant qu'on n'avait pas de ravitaillement, je dis, il n'y a pas d'erreur. Il faut aller chercher, puisque le ravitaillement n'arrive pas. Pourquoi? C'était peut-être pas difficile à savoir. C'est parce que ceux qui venaient amener le ravitaillement, ben, ils se faisaient nettoyer sur le terrain, ou dans les tranchées. Tout ça. Ils se faisaient massacrer, blessés ou tués. Alors je dis, je commande 2 gars, je dis les gars, vous allez redescendre jusqu'au chemin creux là en bas, là il doit y avoir une roulante, ils sont assez loin des lignes, mais vous devez avoir une roulante là, et puis il faut ramener du ravitaillement. Voilà les 2 gars en chemin, et puis un petit peu, mais en pensant réellement qu'eux ils voulaient en avoir aussi, alors les voilà partis. Passe la journée, personne. Alors qu'il aurait dû aller et revenir le soir avec du ravitaillement. Passe la nuit, pas de ravitaillement. Je dis alors là, il y a du louche. J'en commande 2 autres, allez hop, au ravitaillement. Il va partir. Chouvert à Verchou. C'était le 7e jour. Toujours pas de ravitaillement. Rien du tout. Toute la journée, la nuit, pas de ravitaillement. 24 heures sans ravitaillement de plus. Voyant ça, je dis à Amar, alors le copain, là, enfin le copain, c'est le copain, quoi. Je dis, allez, toi, tu viens avec moi. Je dis, on va y aller tous les deux. Moi, je veux savoir pourquoi qu'ils n'ont pas ramené de ravitaillement. Hein? Il y a quelque chose, il faut y aller. Nous y voulons partir, comme deux mois. Naturellement, je le fais passer devant moi, à travers la tranchée. D'un coup, quand on arrive au 3/4 du chemin, PAM! Un homme qui s'amène, qui éclate sur la ligne, il attrape un éclat qui lui enlève les 2 cuisses. Naturellement, le gars, plus de cuisses pour tenir, il s'apaisse et puis il descend. J'ai eu juste le temps, moi qui étais à 3-4 mètres derrière lui, de passer devant lui, je le prends sur mon dos, et puis ma foi je l'emmène, je traverse le. Je vais jusqu'au chemin creux, et en effet, alors là j'ai eu la veine encore de tomber sur un poste de secours. Un des infirmiers qui était là, c'était comme c'était les jonctions. Alors j'aurais déposé entre les mains. Et puis alors moi, je suis allé, comme j'étais donc tout seul, je suis allé un petit peu, un peu plus loin, il y avait une roulante qui était là. Alors naturellement, comme dit mon vieux, on a personne vu. Personne n'est venu chercher du ravitaillement, on se demandait pourquoi. Et en effet, il s'était passé une chose que j'ai remarqué, c'est que le mont Cornillet, vous voyez carrément la tranchée où on passait, alors chaque fois qu'il passait quelque chose, le mont Cornillet tirait dessus. Alors certainement que les quatre bonhommes que j'avais envoyés à la soupe, ils se sont fait massacrer dans le boyau en passant, et même que blessés, s'ils n'ont pas pu se sortir de leur propre moyen, ils se sont enfoncés dans la boue comme mon amarre faisait si je n'avais pas été là, et puis ils étaient asphyxiés, ils étaient noyés par-dessus le marché. Voilà pourquoi on n'avait pas de ravitaillement. Alors naturellement, à la cuisine, là, j'ai fait le chargement complet. On m'a enfilé des boules de pain, on m'a dit, voilà mon affaire, un chapelet dans un fil de fer. Les bidons après moi, plein de pinards, tant qu'on en a voulu, le temps que j'avais eu des bidons. Et puis deux gros bouteillons de soupe à remonter. C'est que la nuit arrivait, et je me dis, ben mon petit, j'ai du ravitaillement, moi, mais il faut monter là-haut maintenant. Et si je passe dans les boyaux, là, ça va encore faire chaud et l'air chaud, je risque encore la même chose. Alors je me dis, genre, tant pis. Coup pour coup, je remonte par le parapet. Alors je monte sur le parapet entre les réseaux de fil de fer, en suivant, en ayant en soi toujours des tabus de la tranchée qui, elle, me conduisait. Elle me conduisait, c'était un point de repère pour aller retrouver mon batterie. Alors, je suis remonté par le dessus comme ça. Alors, naturellement, en cours de route, pom, 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 pom. Mais, j'arrive tout de même. Alors j'arrive, alors naturellement j'ai été bienvenu quand tout le monde a sauté là-dessus, quand j'ai pas eu besoin de me déshabiller, hein. Ils ont tous attrapé les boules de pain, les bidons, tout ça, me décharger, et tout le monde s'est mis à bouffer. Naturellement, premièrement, un bon coup de pinard, chacun dans son bidon, et puis ma foi, les boules de pain, immédiatement, et je te coupe, et puis ne regardais pas s'il y avait quelque chose avec, ni quoi que ce soit. Alors, quand tout le monde a été un petit peu rassasié, tout le monde a dit, attends, on va manger la soupe. Donc, il y en a un, quand tu prends un bidon, il ouvre le bidon, il y avait bien des légumes dans le bidon, mais il n'y avait plus de soupe. Il n'y en avait plus, c'était sec comme tout. J'ouvre l'autre, j'ai ouvert un verre chaud, plus de soupe dedans. On regarde, les deux bidons étaient traversés par 3-4 trous de balles. Naturellement, tout le jus, toute la soupe avait passé par là. Alors je me suis dit, ben mon petit, tu peux faire le signe de la croix, tu as eu un sacré miracle. J'avais donc monté avec tout mon ravitaillement sur le haut du parapet, j'avais un bidon de soupe de chaque bras. Les deux bidons ont été traversés par les balles, mais les balles au milieu, entre les deux bidons, n'ont rien eu du tout, mes jambes. J'ai pas été blessé, mais mes bidons étaient vides. Sacré miracle. Mon bien. Alors on a cherché un autre point pour pouvoir descendre au rapport. Alors, ils ont passé beaucoup plus loin, sur notre droite, pour redescendre dans l'autre boyau, et puis alors il a fallu remonter. Alors les gars, ils ont été obligés de repasser. Alors ils ont fait encore le système D aussi. Ils n'ont pas repassé dans le chemin creux, ils ont repassé, ils ont fait une piste par le dessus, en dessous du mamelon, pour éviter le chemin creux qui était plein de boue là-dedans. Mais alors, tu parles, Ils avaient presque le double de chemin à faire pour reprendre le ravitaillement. Alors c'était les gars du ravitaillement qui venaient, c'était plus nous. Alors, mais ils allaient qu'ils prennent le ravitaillement, puis aller faire le grand tour, comme ça, monter par les trois passants, puis revenir à la batterie de l'autre côté. Voilà comme ça s'est passé dans la somme. Alors, on y a été comme ça jusqu'au 10 décembre. Alors le 10 décembre, voilà les Anglais qui viennent nous relever. Alors pour que ces messieurs puissent nous relever, ça a été l'infanterie, nous l'infanterie. Il a fallu nettoyer les boyaux. Et puis on a mis des cahiers bottés dans le fond. En nettoyant les boyaux, on a retrouvé les cadavres de tous ceux qui avaient été nettoyés dans le boyau. Ils étaient tous dans le fond. Alors c'est là qu'on a eu la conviction que c'était le sacré Montcornier qui nous tirait dessus et qui massacrait les gars qui passaient dans le boyau. Voilà. Alors, on a nettoyé les tranchées pour ces messieurs. Nous, on a été relevés. On est redescendu à Capi. On arrive à Capi, on était à peine arrivé quand on commençait à se désœuvrer. Allez hop, les gars, faut remonter. Les Boches ont su, certainement, c'est pas par quel moyen, ils ont su que c'est qu'il y avait la relève, que c'était les Anglais qui venaient nous relever. Ils ont attaqué. Les Anglais, c'était leur premier feu. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était que la guerre. Ils se sont fait foutre les quatre fers en l'air. Alors nous, il a fallu remonter pour leur redonner un coup de main pour qu'ils contre-attaquent et puis refoutre les Beaux-Ors avant que d'être... Alors on est redescendu encore une deuxième fois à Capi. Alors on est arrivé sur la soirée, on était plein de poux, on était plein de vermine, plein de saloperies. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben on s'est foutu à poil tous. On est descendu dans la Somme, dans la rivière, et puis on faisait le rond dans la rivière en se frottant d'eau, en se frottant corps de, au gars qui était devant toi. Chacun frottait celui qui était là. Et puis on a été à l'échelon, et puis on a été ravillé à neuf. On a tout foutu la rivière. Mais alors, j'étais couvert de vermine, moi. J'avais le sang, il n'y avait plus, t'aurais pas mis le bout d'un doigt entre les morsures de poux, comme ça. Une depuis le cou, jusqu'au bout des pieds. Ça me démangeait. Alors on devait être 8 jours au repos, là. Moi, je ne peux qu'à voir le major. Et monsieur le major, c'était un jeune major, d'avec caution, il me regarde. Oh, là, qui me dit, mon vieux, t'as la gale, qui me dit. Oh, qui me dit, allez, qui me dit, évacuer. Bon, me voilà évacué à Amiens, directement. On arrive à l'hôpital d'Amiens. Naturellement, l'hôpital d'Amiens, c'était un vieux major qui ne bougeait pas de là. Il fait déshabiller, il me regarde. Qui me dit, il est pas fou, ton major qui... Si un fou, je ne sais pas où il est. Moi. Mais en attendant, j'ai regardé comme je suis arrangé. C'est pour ça qu'on m'évacue. Maintenant, qu'il me dit, t'as des poux, qui me dit. Ah, j'en ai eu dépassablement, j'en ai encore. Ah oui, qui me dit, allez, on va te garder. Il a payé l'infirmière qui était là. Dans le diagnostic, tout. On m'emmène dans une salle, allez, une grande baignoire, remplie la baignoire d'eau chaude, avec de la fleur de soufre dedans. L'eau était toute jaune de soufre. Il y avait un poil là-dedans. Il faut là-dedans, un poil là-dedans. Déjà, quand j'ai été dans la baignoire comme ça, avec l'eau chaude, et puis la fleur de soufre qui était dedans. Je respirais des gens, j'étais déjà bien. Oh, ils m'ont laissé au moins 20 minutes là-dedans, si c'est pas une demi-heure. Après, voilà, un infirmier qui s'amène avec un seau ordinaire, mais rempli de pommade d'oxyde de zinc. que je me demandais d'abord qu'est-ce que c'était. Alors, bon, l'infirmière, comment, avait des serviettes comme ça, m'essuyer, me sécher, et puis lui, la main comme ça, dans son seau, et puis allez, et je te m'assomme. M'a foutu de la pommade d'oxydazin qui n'avait plus que le nez et les yeux, puis la bouche qui n'en avait pas, qui avait fait autrement la tête, tout partout. Rien que la pommade de zinc. J'étais là, voilà, bonhomme de neige, c'était le cas de le dire. L'infirmière attrape encore un bras, me le roule après, hop, il me culbute tous les deux, et puis hop, dans un lit dans la salle des blessés. Garanti, j'ai jamais passé une si bonne nuit que celle-là, hein. Avec la pommade, j'avais plus de démangeaisons ni quoi que ce soit. Oh, j'étais bien. Alors, en effet. Alors, le lendemain, on me l'a enlevé, on m'a donné les pyjamas, et puis ma voix, quand l'infirmière m'a regardé, le major, du moins, quand on m'a dit, ah ben, qui me dit ça, ça séchait déjà, les plaies, tout ça. Allez, qui me dit, on va mettre au sec. On m'a remis en pyjama, chemise, tout, blanc. Alors, à l'infirmière, deux jours après, parce que la nuit, comme je pouvais me lever, moi, la nuit, quand j'avais bien un infirmier de garde, mais avec un tas de guignols comme ça, de blessés, puis alors qui souffraient aussi, alors tu ne faisais qu'entendre ça, oh, un pistolet, et la mandoline, et à boire. Alors, ma foi, là, il est pour vous embrayer le long de la nuit, alors pour dormir, c'était difficile, hein. Il fallait réellement un sommeil de plomb pour dormir. Alors, ma foi, quand je ne dormais pas beaucoup, et puis que je pouvais me lever, j'ai été au secours de bien les gars comme ça, je leur passais le pistolet au nid, passais le mandoline à l'autre, donner à boire à un autre. Alors, ah, une nuit que c'était l'infirmière qui était de garde, elle m'a chopé comme ça. Comme ça, c'est bien comme ça, voilà, on va comme ça, puis des compliments de Dieu, voilà. Alors, là, le matin, avant la visite du docteur, elle vient, elle passe à côté de moi, elle m'a dit, toi, quand le major passera la visite, qui dit, sauve-toi de là, tu me dis, hein. Va te cacher où tu voudras, tu me dis, mais ne reste pas là pour la visite. Puis il y a une raison, allons-y. Puis je sentais que j'étais bien, moi. Alors je me suis sauvé comme ça. Alors le dixième jour d'hôpital, elle vient, elle me dit mon petit, elle me dit, écoute, aujourd'hui, quand tu resteras au pied de ton lit, debout au pied de ton lit, tu t'habilleras. Bon, d'accord. J'ai là quelque chose derrière la tête, sans doute. Hein. Là, le major qui s'amène, visite tout le monde. Alors, quand il arrive vers moi, il dit celui-là, quand il a fermé, il dit c'est le major. Hein. Maintenant, je crois qu'avec une petite convalescence, il pourra achever de se remonter. Comme... Bon, ben, mettez le sortant. Me voilà donc mis sortant, j'avais donc 10 jours d'hôpital, mais 7 jours de convalescence. 7 jours qui m'en a fait 11. Que j'ai volé 2 jours en partant, j'ai volé 2 jours pour revenir. Ça m'a fait 11 jours de tranquillité, que j'avais rien que des poux. Voilà comme je suis sorti de l'hôpital de Limoges. Mais alors quand je suis rentré, quand j'arrive à la gare régulatrice, on me dit non, votre régiment n'est pas là. Pour le moment, on ne sait pas où il est. Vous reviendrez dans 2 heures, dans 4 heures, dans 6 heures. Vous reviendrez toutes les 2 heures, d'ici là, on aura des renseignements. Et en effet, on me dit, ah ben comme dit voilà. Ils sont partis en Champagne. Eh ben, enfin, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de leur prendre. la route de régiment par régiment, et puis par indication du bureau de renseignement, pour aller retrouver ma batterie. C'est vraiment quand j'ai retrouvé ma batterie, je me suis fait engueuler comme du papier. Ah, je me souviens. Ça, ça ne tient pas debout, hein. Mais moi, quand j'ai... il y a qu'à rester là, ensemble. Je les aurais retrouvés tout de suite, hein. Mais quand j'ai voulu y aller, on m'a dit qu'il ne fallait pas y aller, qu'on n'était plus là. Et on ne savait pas où vous étiez, ben, ma femme. Enfin, j'ai retrouvé mon régiment là. Un tas de petites histoires, surtout en marche, comme ça, en déplacement ou autre. Qu'on a passé dessus, qu'on ne se rappelle plus, qu'on ne voit plus rien. Qui n'ont pas entré. Qui n'ont pas entré à des faits de guerre, quoi. C'était plutôt de la rigolade, quoi. De la rigolade parce qu'on était heureux de ne plus être en dessous les marmites. Et puis je vois des fois, ça est arrivé à tout le monde. Quand on va dans les congrès, comme ça, qu'on se retrouve tous. Ah, t'es à telle place, toi, ah, tu te souviens de ceci, ah, tu te souviens de ça. Là, je dis oui, bien sûr. Mais non, c'était pas ça, c'était Yantel qui a fait la connerie là. Ben oui, alors on se remémore comme ça quand on est ensemble. Comme... Et neuf fois sur dix, ce sont des petits faits qu'on a vécu. Qu'on a vécu à peu près tous la même chose, quoi. Mais ça ne changeait pas. Ça ne changeait pas beaucoup quand tu faisais la foire. Quand tu es la foire, si on peut appeler ça la foire, mais tu faisais la foire quand tu étais au pot comme ça, que tu avais touché ta solde ou tes mandats comme ça. Alors là, on buvait tout, on mangeait tout. Fallait qu'en montant en ligne, il ne fallait plus un sou dans la poche. Ce n'était pas la peine de chercher en dessous, il n'y en avait plus. Voilà. Ou alors s'il restait deux sous, il y en avait un, c'était celui qui faisait le caissier qui les avait dans sa poche, mais qui les remettait la fois d'après, quand on redescendait du repos après avoir suivi une bonne séance de feu. Alors, à des fois rigoler. On a eu des bons moments, faut pas dire le contraire. On a eu des bons moments. Mais on les a bien souvent payés. Ah oui, on les a souvent payés. Puis même des fois sans être au feu, hein, quand on faisait des déplacements qu'il fallait déplacer toute la batterie sur les routes, hein, ben, c'était pas tout à fait rigolo, hein. C'était pas rigolo.